La crise financière de 1827 les fit fléchir. La révolution de juillet les abattit, mais l'affaire a des réalités dans le ventre. Nucingen ne saurait inventer une mauvaise affaire. Enfin, comme plusieurs maisons de banque du premier ordre y ont participé, il ne serait pas parlementaire d'entrer dans plus de détails. Le capital nominal fut de 10 millions, capital réel 7. 3 millions appartenaient aux fondateurs et aux banquiers chargés de l'émission des actions. Tout fut calculé pour faire arriver dans les 6 premiers mois l'action à gagner 200 francs par la distribution d'un faux dividende. Donc 20% sur 10 millions. L'intérêt de Dutillet fut de 500 000 francs. Dans le vocabulaire financier, ce gâteau s'appelle paragoinfre. Nucingen se proposait d'opérer avec ces millions faits d'une main de papier rose à l'aide d'une pierre lithographique de jolies petites actions à placer, précieusement conservées dans son cabinet. Les actions réelles allaient servir à fonder l'affaire, acheter un magnifique hôtel et commencer les opérations. Nucingen se trouvait encore des actions dans je ne sais quelle mine de plomb argentifère, dans les mines de houille et dans deux canaux. Actions bénéficiaires accordées pour la mise en scène de ces 4 entreprises en pleine activité, supérieurement montées et en faveur, au moyen de dividendes pris sur le capital. Nucingen pouvait compter sur un agio si les actions montaient, mais le baron le négligea dans ses calculs. Il le laissait à fleur d'eau, sur la place, afin d'attirer les poissons. Il avait donc massé ses valeurs, comme Napoléon massait ses troupiers, afin de liquider, durant la crise qui se dessinait et qui révolutionna en 26 et 27 les places européennes. S'il avait eu son prince de Wagram, il aurait pu dire, comme Napoléon du haut du Santon, examinez bien la place, tel jour à telle heure, il y aura là des fonds répandus. Mais à qui pouvait-il se confier? Dutillet ne soupçonna pas son compérage involontaire. Les 2 premières liquidations avaient montré à notre puissant baron la nécessité de s'attacher à un homme qui pût lui servir de piston pour agir sur le créancier. Nucingen n'avait point de neveu, n'osait prendre de confident. Il lui fallait un homme dévoué, un Claparon intelligent, doué de bonnes manières. Un véritable diplomate, un homme digne d'être ministre et digne de lui. Pareille liaison ne se forme ni en un jour ni en un an. Rastignac avait alors été si bien entortillé par le baron que, comme le prince de la paix, qui était autant aimé par le roi que par la reine d'Espagne, il croyait avoir conquis dans Nucingen une précieuse dupe. Après avoir ri d'un homme dont la portée lui fut longtemps inconnue, il avait fini par lui vouer un culte grave et sérieux, en reconnaissant en lui la force qu'il croyait posséder seul. Dès son début à Paris, Rastignac fut conduit à mépriser la société tout entière. Dès 1820, il pensait, comme le baron, qu'il n'y a que des apparences d'honnête homme. Et il regardait le monde comme la réunion de toutes les corruptions, de toutes les friponneries. S'il admettait des exceptions, il condamnait la masse. Il ne croyait à aucune vertu, mais à des circonstances où l'homme est vertueux. Cette science fut l'affaire d'un moment. Elle fut acquise au sommet du Père-Lachaise, le jour où il conduisait un pauvre honnête homme, le père de sa Delphine, mort, la dupe de notre société, des sentiments les plus vrais, et abandonné par ses filles et par ses gendres. Il résolut de jouer tout ce monde, et de s'y tenir en grand costume de vertu, de probité, de belles manières. L'égoïsme arma de pied en cap ce jeune noble. Quand le gars trouva Nucingen revêtu de la même armure, il l'estima comme au Moyen-Âge, dans un tournoi, un chevalier damasquiné de la tête aux pieds, monté sur un barbe, eût estimé son adversaire usé, monter comme lui. Mais il s'amollit pendant quelque temps dans les délices de Capoue. L'amitié d'une femme comme la baronne de Nucingen est de nature à faire abjurer tout égoïsme. Après avoir été trompé une première fois dans ses affections en rencontrant une mécanique de Birmingham, comme était Feu de Marsay, Delphine dut éprouver, pour un homme jeune et plein des religions de la province, un attachement sans bornes. Cette tendresse a réagi sur Rastignac. Quand Nucingen eut passé à l'ami de sa femme le harnais que tout exploitant met à son exploité, ce qui arriva précisément au moment où il méditait sa troisième liquidation, il lui confia sa position, en lui montrant, comme par obligation de son intimité, comme une réparation, le rôle de compère à prendre et à jouer. Le baron jugea dangereux d'initier son collaborateur conjugal à son plan. Rastignac crut à un malheur, et le baron lui laissa croire qu'il sauvait la boutique. Mais quand un écheveau a tant de fils, il s'y fait des nœuds. Rastignac trembla pour la fortune de Delphine. Il stipula l'indépendance de la baronne en exigeant une séparation de biens, en se jurant à lui-même de solder son compte avec elle en lui triplant sa fortune. Comme Eugène ne parlait pas de lui-même, Nucingen le supplia d'accepter, en cas de réussite complète, 25 actions de 1 000 francs chacune dans les mines de plomb argentifère que Rastignac prit pour ne pas l'offenser. Nucingen avait seriné Rastignac la veille de la soirée où notre ami disait à Malvina de se marier. À l'aspect des 100 familles heureuses qui allaient et venaient dans Paris, tranquilles sur leur fortune, les Godefroy de Beaudenord, les d'Aldridger, les d'Aiglemont, etc., il prit à Rastignac un frisson, comme un jeune général qui, pour la première fois, contemple une armée avant la bataille. La pauvre petite Isaure et Godefroy, jouant à l'amour, ne représentaient-ils pas à Cis et Galatée sous le rocher que le gros Polyphème va faire tomber sur eux? Ce singe de Bixiou, dit Blondet, il a presque du talent. Ah, je ne marivaude donc plus, dit Bixiou, jouissant de son succès et regardant ses auditeurs surpris. Depuis 2 mois, reprit-il après cette interruption, Godefroy se livrait à tous les petits bonheurs d'un homme qui se marie. On ressemble alors à ces oiseaux qui font leur nid au printemps, vont et viennent, ramassent des brins de paille, les portent dans leur bec et cotonnent le domicile de leurs œufs. Le futur Disor avait loué, rue de la Planche, un petit hôtel de 1 000 écus, commode, convenable, ni trop grand ni trop petit. Il allait tous les matins voir les ouvriers travaillant et y surveiller les peintures. Il y avait introduit le comfort, la seule bonne chose qu'il y ait en Angleterre. Calorifère pour maintenir une température égale dans la maison, mobilier bien choisi, ni trop brillant ni trop élégant, couleurs fraîches et douces à l'œil, stores intérieurs et extérieurs à toutes les croisées. Argenterie, voiture neuve. Il avait fait arranger l'écurie, la sellerie, les remises où Toby Joby Paddy se démenait et frétillait comme une marmotte déchaînée, en paraissant très heureux de savoir qu'il y aurait des femmes au logis et une lady. Cette passion de l'homme qui se met en ménage, qui choisit des pendules, qui vient chez sa future, les poches pleines d'échantillons d'étoffes, la consulte sur l'ameublement de la chambre à coucher, qui va, vient, trotte quand il va, vient et trotte animé par l'amour, est une des choses qui réjouissent le plus un cœur honnête et surtout les fournisseurs. Et comme rien ne plaît plus au monde que le mariage d'un joli jeune homme de 27 ans avec une charmante personne de 20 ans qui danse bien, Godefroy, embarrassé pour la corbeille, invita Rastignac et Madame de Nucingen à déjeuner, pour les consulter sur cette affaire majeure. Il eut l'excellente idée de prier son cousin d'Aiglemont et sa femme, ainsi que Madame de Sérisy. Les femmes du monde aiment assez à se dissiper une fois par hasard chez les garçons à y déjeuner.